Allez, on va du côté donc de la principauté de Seborga. Seborga qui revendique un territoire de la commune italienne de Seborga. On est au nord-ouest de la péninsule, dans la région de Gênes. On est vraiment tout près de la France, hein, à 20 km de la France à peine. Bonjour Jean-Philippe Arnotte.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consul honoraire de la principauté de Seborga depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ce village de Seborga, il a une longue histoire et il se trouve que cette principauté considère tout simplement qu'elle n'a jamais réellement fait partie de l'Italie. Seborga, c'est une véritable principauté. Alors, il y a un prince, bien sûr, mais est-ce que vous avez, par exemple, une constitution comme pour la principauté d'Andorre, par exemple ?
Oui. À vos deux questions, la réponse est oui. Je voudrais tout d'abord préciser que la principauté de Seborga n'est pas une création internet, une fantaisie ou un état pirate, mais un état historique ancien et bien réel qui réactive sa souveraineté toujours subsistante en droit international, elle qui est comparable au Tibet, au Cabinda, à Timor-Est en son temps, etc. Donc, il s'agit bien d'un état réel et non pas d'une création fantaisiste.
Je voudrais état réel, ça veut dire que vous avez été reconnu par d'autres États, reconnu par les nations, par l'ONU par exemple?
Alors, la reconnaissance diplomatique de Seborga a été acquise dès sa constitution en l'an 954, parce que l'acte de constitution de Seborga a été établi en présence du roi d'Italie Béranger II, le supérieur du comte de Vintimille Guido, qui, à cette date, a dissocié Seborga et 14 kilomètres avoisinants du restant du comté de Vintimille avec pleine souveraineté et a confié les droits seigneuriaux de ce nouvel état simultanément à l'abbaye de Lérins en face de Cannes et au parlement local le chapitre séborgien. Peu après, en 962, Seborga fut incluse dans le Saint-Empire dès la création de ce dernier et les nombreux états qui constituaient le Saint-Empire se reconnaissaient mutuellement. En 1729, la France et la Maison de Savoie, qui tenaient le royaume de Piémont-Sardaigne, futur royaume d'Italie, ont rédigé un document commun où ils écrivent « Terre, seigneurie et principauté souveraine du Sabour », Sabour étant le nom français de Seborga, et voilà la reconnaissance diplomatique.
Donc, si je vous entends bien, Jean-Philippe Arnotte, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fond, la principauté de Seborga n'a jamais cessé d'être souveraine, au fond, c'est ça, il n'y a pas de question sur ce sujet.
C'est exact. Donc,
mais pour autant, je réitère ma question, Jean-Philippe Arnotte, est-ce qu'il y a des États qui reconnaissent la principauté, la souveraineté de la principauté de Seborga?
Tout à fait, nous avons l'État pontifical qui reconnaît diplomatiquement Seborga depuis le début par l'attribution de ce qu'on appelle, c'est un peu compliqué, le droit de nullius diocesis. D'ailleurs, je vous cite une ordonnance du juge italien Madame Erika Canoletta qui, dans l'exercice de ses fonctions, le 5 avril 2007, a écrit donc une ordonnance, je vous cite, « Il ressort la preuve certaine du fait que, jusqu'en 1946, Seborga a été reconnue indépendante par l'État pontifical de par la concession du droit de jouir de l'ainsi nommé droit de nullius diocesis. Ceci résulte pleinement prouvé par les copies des actes originaux obtenus des archives du diocèse de Vintimille. » Fin de citation. Il faut savoir que le droit de nullius diocesis consiste pour l'Église à rattacher une entité directement à Rome sans passer par les archevêques et les évêques. Mais ce droit de nullius diocesis n'est accordé qu'à des entités que le Saint-Siège reconnaît diplomatiquement. C'est une condition pour l'obtenir. Et ce droit de nullius diocesis n'a jamais été retiré à Seborga. Donc, en pleine logique, l'État pontifical reconnaît Seborga depuis sa constitution en 1954.
Bruno Fulini, réaction sur cette principauté de Seborga, il nous le dit, ce consul honoraire, Seborga, cette principauté, elle est tout à fait souveraine.
Elle n'est pas autoproclamée, C'est un État souverain, j'insiste.
Bruno Fulini.
Alors, la principauté de Seborga, c'est un village perché tout à fait charmant, où je suis allé plusieurs fois, et il a effectivement une histoire très riche. Et c'est effectivement en s'appuyant sur cette histoire que l'on peut puiser des arguments pour défendre l'idée qu'il est souverain ou qu'il a droit à la souveraineté. On pourrait faire exactement le même type de raisonnement, par exemple, avec la commune française d'Yvetot, qui était autrefois un royaume. Et on pourrait prouver que le royaume d'Yvetot a été incorporé à la France de manière indue, injuste, voilà. Ce que j'admire à Seborga, c'est l'intelligence avec laquelle cette histoire et les archives ont été mises à contribution pour montrer qu'effectivement, il y avait toujours aujourd'hui un droit à l'indépendance, un droit à la souveraineté, et qu'en fait, cette souveraineté, on n'y avait jamais renoncé, elle n'avait jamais disparu. C'est une forme de résurgence, en quelque sorte. Cela dit, si on va à Seborga, on trouve un maire italien, que la principauté considère comme l'ambassadeur d'Italie à Seborga. Mais d'accord. Il y a quand même un maire. Et par contre, je n'y ai pas vu d'ambassade ni de l'État pontifical, ni des puissances européennes. C'est-à-dire que ce sont des raisonnements intéressants. Ça ne suffit pas pour faire de Seborga un État pleinement reconnu, au même titre que même Monaco, par exemple.
Alors, il y a un maire, nous dit Bruno Fulini, il n'y a pas d'ambassade. Tiens, par exemple, Jean-Philippe Arnott, on paye des impôts à Seborga, et on les paye à qui ? À la principauté de Seborga, à l'État italien ? Comment ça se passe ?
Je voudrais répondre aux deux questions que vous avez posées. Bon. Alors, tout d'abord, il est vrai que l'Italie a installé à Seborga une commune inuito iure, c'est-à-dire contre le droit, et que cette commune assure des services, voirie, immondice, etc. C'est vrai. Mais il est vrai aussi que la structure communale n'implique pas la perte de la souveraineté internationale. En ce qui concerne les impôts, il faut savoir qu'effectivement, de nombreuses personnes travaillant en dehors de la principauté ont acquis et accumulé des droits dans le système social italien, pension, sécurité sociale. Alors, ces personnes-là, pour ne pas perdre leurs droits, paient leurs impôts. Toutefois, il faut préciser que ce n'est pas le cas du gouvernement séborgien qui ne paye pas la TVA sur les factures provenant d'Italie. En particulier, lorsque la principauté de Seborga a réouvert son hôtel des monnaies, car Seborga a sa propre monnaie depuis le XVIIe siècle, lorsqu'on a réouvert l'hôtel des monnaies en 1995, on a fait frapper de la monnaie séborgienne en Italie, le gouvernement séborgien a payé la facture italienne sans la TVA, l'Italie a attaqué le gouvernement séborgien pour non-paiement de la TVA. Alors, l'argumentation était très claire. Il n'y a pas de code TVA pour la monnaie. C'est pas prévu. Nous sommes un État qui n'est pas l'Italie. Nous ne sommes même pas dans l'Union européenne en droit international. Le gouvernement italien, donc, n'a pas reçu notre TVA. Alors, c'est passé en justice en Italie. Et le juge italien, très, très intelligemment, s'est déclaré incompétent, sous-entendu qu'il y a là une matière internationale. L'Italie est allée en appel. Nous avons menacé l'Italie d'appeler des journalistes du monde entier pour montrer comment on nous traite. Eh bien, croyez-le si vous voulez, l'Italie a laissé tomber son appel. Ce qui fait que nous avons créé, au profit du gouvernement séborgien, une zone hors TVA. Et j'ajouterai même que, comme le Luigino est aligné sur le dollar, en principe un Luigino égale 6 dollars, nous sommes même zone dollar et pas zone euro. C'est-à-dire que si vous payez en euros, bon, vous êtes dans la zone euro, mais en Luigini, vous êtes dans la zone dollar.
Bruno Fulini, réaction à nouveau. Pourquoi, à votre avis, l'Italie n'est pas allée au bout des choses ? Est-ce que c'est de peur de rentrer dans un imbroglio juridique ? Est-ce que c'est tout simplement de l'indifférence ? Enfin...
De l'indifférence, non, parce que dans un premier temps, l'Italie a laissé exister cette renaissance séborgaise, et puis après a trouvé que les choses allaient un petit peu trop loin. Bon, vous vous rendez compte que pour un vaste État, ça n'est pas très glorieux de paraître sur la scène internationale écraser une micro-entité de quelques centaines d'habitants. Donc bon, et puis bon, on est en Italie, donc il y a une certaine subtilité politique aussi qui fait qu'on peut très bien admettre que sur un territoire que l'Italie considère comme le sien, s'auto-constitue un nouveau gouvernement qui arbore des marques de souveraineté. Donc, par exemple, lorsque vous êtes à Seborga ou aux alentours de Seborga, vous verrez circuler des voitures avec
leur propre plaque d'immatriculation.
Alors, en fait, il y a des plaques d'immatriculation de Seborga, mais assez vite, les carabiniers, parce que là aussi, c'est comme l'argent, la voiture, c'est sérieux. Donc, si vous circulez avec une plaque d'immatriculation exotique, on va vous arrêter. Et donc, très vite, on a eu sur les mêmes voitures deux plaques d'immatriculation. l'immatriculation, une plaque italienne et une plaque séborgaise.
Et si vous avez juste une plaque italienne et que vous êtes à Séborga, Jean-Philippe Arnaud, est-ce que vous avez des problèmes avec la police séborgaise?
Je vous remercie pour cette question, qui est très intéressante. Il y a eu un jugement du tribunal des libertés de Imperia en 1994, si je me souviens bien, qui acceptait. Par laquelle l'Italie accepte les plaques séborgiennes à condition qu'elles soient afflanquées, donc qu'elles soient en présence également d'une plaque italienne. C'est-à-dire que s'il y a les deux plaques, l'Italie nous laisse tranquille. S'il y en a une seule, oui, ils font les difficiles. Oui.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Arnold.
Excusez-moi, je voudrais encore dire un petit mot.
Allez, une dernière chose.
Ouais. Bon, parce que j'apprécie votre collègue, mais bon, le temps qui nous est apporté est assez limité. Donc, le problème de Séborga est dû au fait que sous la monarchie italienne, la maison de Savoie, qui était roi en Italie, n'était que protecteur à Séborga, protecteur personnel. Donc on était en situation d'union personnelle, comme disent les juristes et les historiens, et lorsque la maison de Savoie a perdu sa royauté sur l'Italie, elle a perdu automatiquement son jus patronatus, son droit de protectorat sur Séborga. Et les deux États ont donc récupéré chacun leur souveraineté. J'insiste lourdement, Séborga n'a jamais été annexée par l'Italie en aucune façon. Et c'est ça le problème.
Merci beaucoup Jean-Philippe Arnaud, je rappelle, consul honoraire de la principauté de Séborga. Vous entendez Bruno Fellini, on insiste beaucoup au fond sur l'aspect historique des choses, hein. C'est ce qu'on entend à travers cet exemple-là. Hein.
Là c'est une des façons de démontrer effectivement l'indépendance. Il y a un autre cas en marge de l'Italie qui est très intéressant, c'est la petite île de Tavolara, qui est au nord-est de la Sardaigne, et qui était une sorte de micro-micro-monarchie, avec un roi par ailleurs pêcheur, hein, qui vivait de son travail. Et aujourd'hui encore, il y a des prétendants au trône de Tavolara. La question de savoir si Tavolara a été ou non intégré à l'Italie reste pendante.
11h passées de 34 minutes, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.